9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Dans la carrière de tous les grands artistes, il y a évidemment, comme d'ailleurs dans n'importe quelle vie et carrière, me direz-vous, il y a des tournants, des retournements, des renouvellements aussi, qui peuvent être liés à des remises en cause ou des doutes. Il y a aussi de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles stimulations. Eh bien, c'est ce qui se passe pour Henri Matisse au milieu des années 1930. Matisse est très reconnu à l'époque, hein, et depuis longtemps. C'est le chef du courant fauviste, connu pour son goût des innovations modernes, pour cet art de la vraie fausse simplicité. Il y a une lumière dans ces toiles de Matisse, il y a une vitalité dans ses compositions tout simplement exceptionnelles. Or, brusquement, un visage nouveau vient inonder son œuvre. Le visage en question est celui de Lydia Delektorskaya. Ce visage ne se repose pas sur une beauté paresseuse ou inerte. Non, il est mieux que ça. Comme l'ont noté beaucoup de critiques, au-delà de la blondeur de Lydia, il y a ses yeux clairs incroyablement expressifs, il y a ses traits, c'est très étonnant. On peut dire qu'elle a quelque chose d'un peu énigmatique, cette Lydia. Une aura spéciale. Elle est un modèle singulier, qu'elle soit représentée simplement de face, assise au milieu d'une pièce colorée, qu'elle soit représentée nue, couchée sur un divan bleu. Elle garde toujours une espèce de retenue qui semble attirer le spectateur à elle, une retenue que Matisse a su préserver, qu'il a su immortaliser. C'est son trésor. Tout ça va créer une forme de tension dont l'origine est sans doute à rechercher dans l'histoire même de Lydia, dans le récit de sa relation avec le grand peintre. Et pour commencer, peut-être faut-il aller chercher un petit peu la clé du mystère dans les circonstances de leur rencontre. D'abord, il faut dire qu'ils n'avaient pas de raison de se rencontrer. Lui, Matisse, je vous l'ai dit, est un génie éprouvé, il est sexagénaire, il est installé à Nice, dont il est un peu la célébrité. Elle est une jeune inconnue qui a grandi entre la Sibérie et la Mandchourie, tout à fait là-bas, dans les confins tout à fait orientaux de la Russie. Lydia va capter l'attention de l'artiste, je vous l'ai dit, par son regard clair, par quelque chose d'un peu étrange. Il y a des nuances pudiques dans ce regard, et en même temps, on y sent tout le poids d'une certaine expérience, comme si elle avait été marquée par les épreuves.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est donc cet ouvrage de Vladimir Fedorovski qui nous dit, je cite Vladimir, « La vie de Lydia a commencé comme le roman de Boris Pasternak, le docteur Jivago, une enfance ballottée par la guerre civile au début des années 20, en Sibérie, la neige, les bandits et les loups furent son décor. » Très tôt, elle a 10 ans à l'époque, la petite Lydia, quand elle apprend le décès de son père. Son père était médecin, il est terrassé lui-même par une maladie, et en 1922, c'est-à-dire 2 ans après, c'est le tour de sa mère. Et voilà la fillette orpheline confiée à une tante maternelle qui s'appelle Antonina. Auprès d'elle, elle va passer son adolescence à Harbin, à environ 500 km au nord-ouest de Vladivostok. Et quand elle a 18 ans, eh bien, elle est demandée en mariage. Jusque-là, ça paraît assez classique. La jeune fille va suivre donc une autre voie. Elle n'accepte pas cette demande. Elle va suivre. Elle a 18 ans, hein, c'est ça. Elle va suivre sa tante et son oncle en France, où ils ont émigré. Elle va faire des études d'art. Ça signifie un voyage assez extraordinaire sur les eaux de l'océan Indien, de la mer Rouge, de la Méditerranée. Enfin, la côte provençale, un monde nouveau. Et une fois la France traversée, eh bien, c'est la découverte de Paris, qui à l'époque est au sommet de son rayonnement, notamment artistique. Paris qui est aussi assez dur pour une orpheline étrangère. Je cite Wanda de Guébriand dans Lydia D, muse et modèle de Matisse. Lydia aurait bien voulu entreprendre des études de médecine au lieu de cela, sans moyens, sans droit au travail de par son statut d'immigré, ne parlant pas ou très mal le français. Elle épouse à contre-cœur M. Omelchenko, un réfugié russe beaucoup plus âgé qu'elle. Et c'est pas un bon mariage, hein, faut bien le dire, ça, la rupture ne va pas tarder. Lydia n'a toujours que 20 ans, elle décide de repartir pour Nice avec un autre homme qui lui non plus ne va pas la rendre heureuse. Elle enchaîne les emplois qu'on pourrait qualifier d'alimentaires. On la voit notamment paraître à l'arrière-plan de certains films. Elle pose comme modèle, elle décrira tout ça comme une véritable corvée. Il faudrait pouvoir le dire avec son bon accent russe. Et puis voilà qu'un jour, on lui parle donc de ce grand peintre installé à Nice, Henri Matisse, qui chercherait quelqu'un. Lydia ne sait pas qui est ce personnage, mais après tout, pourquoi pas aller se renseigner de nouveau au mandat de Guébriant. Au mois d'octobre, elle se présente chez Matisse dans l'espoir de décrocher quelques séances de pose. L'artiste, tout à la réalisation d'une décoration monumentale, n'a nul besoin d'un modèle et l'engage comme aide d'atelier pour un remplacement de quelques jours. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que la décoration monumentale en question, c'est un triptyque extraordinaire, c'est la danse de Merion que l'artiste va réaliser pour un client américain. Vous voyez à quoi il ressemble, Matisse, avec ses petites lunettes toutes rondes, sa barbe blanche, son crâne bien chauve, en tout cas très dégarni. Lydia va se révéler dans cet atelier une petite main assez efficace. On lui propose de poursuivre son travail dans les mois qui suivent. Il arrive à l'occasion que Matisse la dessine, comme il dessine tout ce qui lui tombe sous la main, si je puis dire, mais c'est comme ça, c'est sans façon. Et puis la danse est terminée, on remercie Lydia, le fait est qu'on n'a plus besoin d'elle. Et la jeune Russe va devoir passer à autre chose. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on peut penser que les chemins de Lydia et d'Henri Matisse vont se séparer. La vie va les séparer pour de bon, pas si sûr.
Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю, баюшки.
La bien belle voix d'Aïda Garifullina, accompagnée par l'orchestre symphonique de la radio autrichienne sous la direction de Cornelius Meister, interprétait cette berceuse cosaque de Sergueï Rachmaninov.
Vous écoutez Radio Classique.
On est en 1933, là, et ça fait donc quelques mois que Lydia a quitté son premier emploi auprès de Matisse. Je dis premier emploi parce qu'elle va bientôt entendre parler de lui de nouveau pour une offre qui, cette fois, n'a pas grand-chose à voir avec l'art. C'est elle qui raconte. Madame Matisse, de santé très fragile depuis de nombreuses années, eut besoin de remplacer la jeune fille qui lui servait de garde-malade et de dame de compagnie. On se souvint de moi. On me retrouva et je fus engagée. Au début, je venais à la journée. Ensuite, on me proposa d'être logé et nourri au mois. Au cours de ma première année chez eux, Henri Matisse ne me prêtait guère intérêt. Il vivait absorbé par son travail. Moi, j'étais une utilité de la maison. Il paraissait surtout un peu dérouté par la présence dans la famille d'un spécimen de la fameuse âme slave. Mais voilà, c'est peut-être ça le secret de toute cette histoire. Bon, pour l'instant, Lydia fait certes partie des personnages secondaires du quotidien de l'artiste, qui la croise souvent auprès de sa femme, auprès d'Amélie. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, eh bien, il a l'air de regarder autrement la jeune Russe. Il se met, selon les termes même de Lydia, à arrêter sur elle un regard lourd et scrutateur. À vrai dire, elle n'en conclut pas grand-chose. Il paraît établi que Matisse ne soit guère inspiré par elle. Et puis, maintenant qu'elle connaît mieux son œuvre, elle sait à quel point il a une prédilection pour les méridionales, à la chevelure sombre, autrement dit, pour exactement le contraire de ce qu'elle est. Eh bien, Lydia va devoir assez vite être détrompée. C'est elle encore qui raconte. Un jour, il vient se reposer, un carnet de croquis sous le bras, et pendant que distraitement j'écoutais la conversation, il m'intima soudain « Ne bougez pas !» En ouvrant son cahier, il me dessina, fixant une pose qui m'était familière, la tête couchée sur les bras croisés, appuyée sur le dossier du siège. C'est le début de séances qui vont se renouveler et qui, un petit peu plus tard, vont aboutir à un portrait en bonne et due forme, le célèbre portrait intitulé « Les yeux bleus ». Lydia paraît tout près du spectateur et pourtant, c'est comme si elle était impossible à atteindre, hein. Elle est inaccessible, un peu à part. Bref, elle est fascinante. Et c'est qu'un début. L'employée de maison se mue finalement en modèle principal. Elle, qui n'aimait pas poser, va commencer à apprécier les séances face au maître. Lydia et Matisse établissent peu à peu ce qui est en train de devenir un véritable lien avec une véritable affection dont les mots clés semblent être le respect, la retenue. La place de la jeune femme, toujours aussi serviable et très capable à l'évidence, cette place va chez les Matisse devenir de plus en plus importante. Je cite Bertrand Meyer-Stablet dans « 12 muses qui ont changé l'histoire ». Lydia cumule désormais les fonctions de secrétaire et celles de dame de compagnie, de nurse et de modèle. Elle tape les lettres de son employeur à la machine, traduit des articles sur son œuvre et lui apprend même des notions d'anglais. Elle fait surtout régner dans l'atelier une atmosphère impersonnelle, calme et harmonieuse. Elle se met à prendre méthodiquement des notes sur le travail en cours de Matisse, à garder une trace de ses expérimentations et à constituer un dossier photographique daté de ses œuvres. Vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça se rendre nécessaire. Et elle est de plus en plus nécessaire, Lydia, ce qui commence à irriter sérieusement Amélie Matisse. Et évidemment, les rapports entre le mari, entre Henri et son employé russe sont certes platoniques, mais l'épouse, qui se sent vieillir, a toutes les raisons de se sentir surclassée. D'ailleurs, dès que Lydia a achevé les soins du début du jour procurés à Amélie Matisse, que fait-elle ? Eh bien, elle se précipite auprès de l'artiste qui est là, qui l'attend. L'importance qu'elle prend est difficile à vivre pour Amélie. Et petit à petit, la grande bienveillance que dans un premier temps Madame Matisse avait manifestée envers Lydia va s'éroder, que dis-je, s'effacer. Et un jour, elle finit par demander à son mari de la congédier. Alors d'abord, Henri Matisse résiste. Il tient à cette muse qui l'emporte, à cette collaboratrice qui l'aide si concrètement dans l'élaboration de son œuvre, dans le suivi de son œuvre. Il sent bien qu'elle est en train de travailler pour la postérité, pour l'histoire d'une certaine manière. Mais devant l'intransigeance de sa femme, Henri Matisse va finir par céder. Celle qui lui a inspiré déjà tant de chefs-d'œuvre est donc remerciée. La voilà qui part avec une lettre de recommandation élogieuse. C'est comme ça qu'on procède dans ce genre de circonstances. La lettre est signée Henri Matisse et elle dit « Je sous-signe et certifie que Madame Lydia Delektorskaya a travaillé chez moi en qualité de garde-malade, puis en qualité de secrétaire d'artiste de 1932 à 1939. Ses qualités se sont manifestées dans la pleine mesure quand elle a commencé à mener mes affaires et organiser les affaires de l'atelier. Nice, le 28 janvier 1939. » Et voilà Lydia renvoyée à cette vie tellement incertaine, à cet avenir sans lendemain. Le coup est dur, évidemment, elle est malheureuse. Il semblerait même qu'un jour, alors qu'elle a sorti d'un tiroir une arme à feu, elle en vienne à vouloir attenter à ses jours. Le final du diptyque méditerranéen de Vincent d'Indy, le soleil vespéral, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la baguette du regretté maestro Georges Prêtre.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Elle est partie, Lydia. Elle est partie, mais les relations entre Henri Matisse et Amélie, son épouse, ne s'arrangent pas, au point d'ailleurs que finalement le couple vient à se séparer. Et comme l'artiste constate que l'éloignement de sa femme se confirme, eh bien, il va revenir sur sa décision, évidemment. Finalement, pendant l'été 39, il rappelle Lydia. Elle n'a pas tout à fait mené à bout sa tentative de suicide. Ça restera, disons, un mauvais souvenir du passé. Mais on est en plein début de la Seconde Guerre mondiale, en revanche. Matisse va essayer d'insuffler à son œuvre le souffle nouveau qu'il était en train de chercher, qui commence peut-être parfois à lui manquer un peu. Il est aidé, il est soutenu par la patiente Lydia. Il faut dire que la santé du maître est toujours plus chancelante. Il a des problèmes digestifs, beaucoup de problèmes cardiovasculaires. En 41, il a 71 ans, il doit subir une intervention sérieuse. À Lyon, il se remet, mais que voulez-vous? Maintenant, c'est l'âge qui est en train de l'atteindre. Il doit désormais porter un corset pour soutenir sa sangle abdominale et ne peut rester longtemps debout, nous dit Bertrand Meyers-Tablet. Aussi vivra-t-il la plupart du temps entre son lit et un fauteuil roulant. Il se remet toutefois rapidement au travail, tout en économisant ses forces. Il tire de cette expérience un regain pour son art. Bientôt, il recommence à travailler aussi assidûment que par le passé, de 9h à midi, puis de 2h à la tombée du jour. Et Lydia est toujours auprès de lui. Elle facilite tout, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission. Elle facilite tout et offre à Matisse les conditions de travail dont il a besoin. Elle sait gérer ses appréhensions de créateur. Elle lui propose aussi des modèles. Elle pose elle-même et il l'immortalise encore. Tout cela ressemble à un refuge, alors que tout autour le monde s'enlaidit dans la guerre. Matisse aura d'ailleurs un temps la douleur de voir son épouse et sa fille sérieusement inquiétées et car soupçonnées de résistance. Et cette affaire-là va s'arranger. C'était aussi à peu près à cette époque que Matisse part de Nice pour essayer de trouver un peu plus de tranquillité avant un village qu'il va marquer définitivement de sa présence tellement exceptionnelle. La guerre vient à se terminer. Les habitudes de Matisse et de Lydia sont maintenant très ancrées. Ils ont trouvé une sorte d'équilibre dans cette relation tellement originale de muse réservée et d'artiste inspiré par elle. Je cite Vanda de Guébriant. La présence de Lydia devient tellement indispensable à Matisse que tout projet de vacances de sa part laisse désormais l'artiste dans le désarroi. Lydia, dans son rôle de gouvernante, supporte sans broncher et apprécie sans doute aussi cette situation, au point qu'elle ne s'absente que 3 jours en août 45, lorsque décède sa tante Antonina.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Elle a fait toutes ses preuves, Lydia. Elle a montré son abnégation. Ce n'est pas une femme avide. C'est au contraire la femme de confiance qu'il fallait à ce grand artiste pour contrôler la création d'expositions, l'édition d'ouvrages impliquant Matisse. N'oubliez pas qu'on est à la grande époque des livres d'art dans l'après-guerre. Du côté de la gestion de l'intérieur du peintre, Lydia va être un peu, comment dire, elle ploie sous la tâche. Au fil des années, il va falloir que des infirmières se relaient pour l'épauler. On a d'autres assistantes d'atelier. Et pour Matisse, disons-le, c'est un petit peu une course contre la montre. Il a maintenant beaucoup de faiblesses oculaires, ce qui pour un peintre, évidemment, est terrible. On avait connu ça avec Claude Monet, déjà. Il lui arrive de se sentir très, très diminué. En 51, par exemple, il n'assiste même pas à la dédicace de la chapelle de Vence, dont il vient pourtant d'achever le merveilleux décor qui lui avait coûté tant de labeur et tant de recherche. Enfin, le 1er novembre 54, Matisse est touché par une attaque. Lydia cherche à le rassurer, elle voudrait le détendre, mais au fond, elle sait bien à quoi s'en tenir, et c'est vrai que 2 jours plus tard, il va rendre son dernier souffle et à son enterrement, on ne voit pas Lydia puisque elle s'est éclipsée, cette muse qui maintenant a 44 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ait tout à fait tourné la page, hein. Elle va rester fidèle à la confiance que Matisse avait en elle et pendant des décennies, elle va se mettre au service de l'œuvre de celui qui avait changé sa vie, mais dont on peut dire qu'elle avait aussi un peu influencé l'œuvre, même assez singulièrement. Sur un autre registre, elle deviendra une traductrice au talent reconnu, mais ça c'est une autre carrière. Quand elle va à son tour s'éteindre, ce sera en mars 1998, on rendra hommage à une muse, certes, mais aussi à une femme plus que douée, qui aura été bien plus qu'une simple inspiratrice pour cet homme d'exception qu'avait été Henri Matisse. Comme le note Vladimir Fedorovski, le nom de Lydia est indissociable de la grande histoire artistique du XXe siècle.
Vous écoutez Radio Classique.
Et voilà quelqu'un dont le nom est indissociable de la grande histoire de la radio française, et c'est Christian Morin. Bonjour Christian.
Ça me rajeunit.
Non mais je crois qu'on va bientôt célébrer un jubilé Morin.
L'année prochaine. Il y a deux événements l'année prochaine, la présidentielle et le jubilé.
Et le jubilé de Christian Morin.
On y reviendra donc, mais enfin, je ne fais pas campagne pour cela. Je pensais à ce monde qui a été... éblouissant dans les années 20-30, puisque à l'instar de ce qui s'est passé pour Picasso, pour le tricorne de Manuel de Falla, créé à Londres, donc, oui. Où il avait fait les costumes et les décors, Matisse aussi, avec Diaghilev, avec ces gens-là, Stravinsky, ça c'est un monde en ébullition.
Mais il y a quelque chose de musical dans le talent de coloriste, c'est tellement lumineux de Matisse.
Mais alors, vous parliez de Vence et cette chapelle, écoute, ça me donne envie de... Je n'ai pas le temps, mais autrement, un petit week-end à Vence.
Oui, c'est pas mal.
C'est pas mal, mais allez-y si vous passez dans la
région.
Il y a
de bonnes maisons sur place.
Exactement, oui, je vois ce que vous voulez dire. Merci beaucoup Franck, et nous nous retrouverons bien sûr ensemble dès demain matin. Je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée.